Enivré d'ambition par cette femme, Charles avait caressé pendant la traversée toutes ses espérances qui lui furent présentées par une main habile et sous forme de confidences versées de cœur à cœur. Croyant les affaires de son père arrangées par son oncle, il se voyait ancré tout à coup dans le faubourg Saint-Germain. Sa cousine n'était donc plus pour lui qu'un point dans l'espace de cette brillante perspective. Il revit Annette. En femme du monde, Annette conseilla vivement à son ancienne amie de contracter cette alliance et lui promit son appui dans toutes ses entreprises ambitieuses. Annette était enchantée de faire épouser une demoiselle laide et ennuyeuse à Charles, que le séjour des Indes avait rendu très séduisant. Son teint avait bruni, ses manières étaient devenues décidées, hardies, comme le sont celles des hommes habitués à trancher, à dominer, à réussir. Charles respira plus à l'aise dans Paris en voyant qu'il pouvait y jouer un rôle. Des Grassins, apprenant son retour, son mariage prochain, sa fortune, le vint voir pour lui parler des 300 000 francs moyennant lesquels il pouvait acquitter les dettes de son père. Il trouva Charles en conférence avec le joaillier auquel il avait commandé des bijoux pour la corbeille de Mademoiselle d'Aubrion et qui lui en montrait les dessins. Monsieur des Grassins était déjà venu 3 fois. Charles l'écouta froidement, puis lui répondit sans l'avoir bien compris : « Les affaires de mon père ne sont pas les miennes. Je vous suis obligé, monsieur, des soins que vous avez bien voulu prendre et dont je ne saurais profiter. Je n'ai pas ramassé presque 2 millions à la sueur de mon front pour aller les flanquer à la tête des créanciers de mon père. » « Et si monsieur votre père était, d'ici à quelques jours, déclaré en faillite ?»« Monsieur, d'ici à quelques jours, je me nommerai le comte d'Aubrion. Vous entendez bien que ce me sera parfaitement indifférent. D'ailleurs, vous savez mieux que moi que quand un homme a 100 000 livres de rente, son père n'a jamais fait faillite. » ajouta-t-il en poussant poliment le sieur des Grassins vers la porte. Au commencement du mois d'août de cette année, Eugénie était assise sur le petit banc de bois où son cousin lui avait juré un éternel amour et où elle venait déjeuner quand il faisait beau. La pauvre fille se complaisait en ce moment par la plus fraîche, la plus joyeuse matinée à repasser dans sa mémoire les grands, les petits événements de son amour et les catastrophes dont il avait été suivi. En ce moment, le facteur de poste frappa, remit une lettre à Mademoiselle Cornoyer qui vint au jardin en criant « Mademoiselle, une lettre !» Elle la donna à sa maîtresse en lui disant « C'est-y celle que vous attendez ?» Ces mots retentirent aussi fortement au cœur d'Eugénie qu'ils retentirent réellement entre les murailles de la cour et du jardin. « Paris, c'est de lui. Il est revenu. » Eugénie pâlit et garda la lettre pendant un moment. Elle palpitait trop vivement pour pouvoir la décacheter et la lire. La grande Nanon resta debout, les deux mains sur les hanches, et la joie semblait s'échapper comme une fumée par les crevasses de son brun visage. « Lisez donc, mademoiselle. »«
Ah, Nanon, pourquoi revient-il par Paris quand il s'en est allé par Saumur ?»«
Lisez, vous le saurez. » Eugénie décacheta la lettre en tremblant. Il en tomba un mandat sur la maison, Madame des Grassins et Corée, de Saumur. Nanon le ramassa. « Ma chère cousine, »
« Je ne suis plus Eugénie, » pensa-t-elle, et son cœur se serra.
« Vous ?»
il me disait-tu.
Elle se croisa les bras, n'osa plus lire la lettre, et de grosses larmes lui vinrent aux yeux.
« Est-il mort ?»
demanda Nanon.
« Il n'écrirait pas, » dit Eugénie.
Elle lut toute la lettre que voici. « Ma chère cousine, vous apprendrez, je le crois, avec plaisir, le succès de mes entreprises. » Vous m'avez porté bonheur, je suis devenue riche, et j'ai suivi les conseils de mon oncle, dont la mort et celle de ma tante viennent de m'être apprises par Monsieur des Grassins. La mort de nos parents est dans la nature, et nous devons leur succéder. J'espère que vous êtes aujourd'hui consolée. Rien ne résiste au temps, je l'éprouve. Oui, ma chère cousine, malheureusement pour moi, le moment des illusions est passé. Que voulez-vous ? En voyageant à travers de nombreux pays, j'ai réfléchi sur la vie. D'enfant que j'étais au départ, je suis devenu homme au retour. Aujourd'hui, je pense à bien des choses auxquelles je ne songeais pas autrefois. Vous êtes libre, ma cousine, et je suis libre encore. Rien n'empêche en apparence la réalisation de nos petits projets, mais j'ai trop de loyauté dans le caractère pour vous cacher la situation de mes affaires. Je n'ai point oublié que je ne m'appartiens pas. Je me suis toujours souvenue dans mes longues traversées du petit banc de bois. »
Eugénie se leva comme si elle eût été sur des charbons ardents, et elle alla s'asseoir sur une des marches de la cour.
Du petit banc de bois où nous nous sommes jurés de nous aimer toujours, du couloir, de la salle grise, de ma chambre en mansarde, et de la nuit où vous m'avez rendu par votre délicate obligeance mon avenir plus facile. Oui, ces souvenirs ont soutenu mon courage, et je me suis dit que vous pensiez toujours à moi comme je pensais souvent à vous, à l'heure convenue entre nous. Avez-vous bien regardé les nuages à 9 heures? Oui, n'est-ce pas? Aussi, ne veux-je pas trahir une amitié sacrée pour moi? Non, je ne dois point vous tromper. Il s'agit en ce moment pour moi d'une alliance qui satisfait à toutes les idées que je me suis formées sur le mariage. L'amour dans le mariage est une chimère. Aujourd'hui, mon expérience me dit qu'il faut obéir à toutes les lois sociales et réunir toutes les convenances voulues par le monde en se mariant. Or déjà, se trouve entre nous une différence d'âge, qui peut-être influerait plus sur votre avenir, ma chère cousine, que sur le mien. Je ne vous parlerai ni de vos mœurs, ni de votre éducation, ni de vos habitudes, qui ne sont nullement en rapport avec la vie de Paris, et ne cadreraient sans doute point avec mes projets ultérieurs. Il entre dans mes plans de tenir un grand état de maison, de recevoir beaucoup de monde, et je crois me souvenir que vous aimez une vie douce et tranquille. Non, je serai plus franc, et veux vous faire arbitre de ma situation. Il vous appartient de la connaître, et vous aurez le droit de la juger. Aujourd'hui, je possède 80 000 livres de rente. Cette fortune me permet de m'unir à la famille d'Aubrion, dont l'héritière, jeune personne de 19 ans, m'apporte en mariage son nom, un titre, la place de gentilhomme honoraire de la chambre de sa majesté et une position des plus brillantes. Je vous avouerai, ma chère cousine, que je n'aime pas le moins du monde mademoiselle d'Aubrion. Mais par son alliance, j'assure à mes enfants une situation sociale dont un jour, les avantages seront incalculables. De jour en jour, les idées monarchiques reprennent ferveur. Nous nous devons à nos enfants. Vous voyez, ma cousine, avec quelle bonne foi je vous expose l'état de mon cœur, de mes espérances et de ma fortune. Il est possible que de votre côté, vous ayez oublié nos enfantillages après cette année d'absence. Mais moi, je n'ai oublié ni votre indulgence, ni mes paroles. Je me souviens de toutes, même des plus légèrement données et auxquelles un jeune homme, moins consciencieux que je ne le suis, ayant un cœur moins jeune et moins probe, ne songerait même pas. En vous disant que je ne pense qu'à faire un mariage de convenance et que je me souviens encore de nos amours d'enfant, n'est-ce pas me mettre entièrement à votre discrétion, vous rendre maîtresse de mon sort et vous dire que s'il faut renoncer à mes ambitions sociales, je me contenterai volontiers de ce simple et pur bonheur duquel vous m'avez offert de si touchantes images. Post-scriptum, je joins à ma lettre un mandat sur la maison des Grassins de 8 000 francs à votre ordre, et payable en or, comprenant intérêt et capital, de la somme que vous avez eu la bonté de me prêter. Vous pouvez renvoyer par la diligence ma toilette de l'hôtel d'Aubrion, rue Hillerin-Bertin.
Par la diligence, dit Eugénie. Une chose pour laquelle j'aurais donné 1 000 fois ma vie.
Épouvantable et complet désastre. Le vaisseau sombrait sans laisser ni un cordage, ni une planche sur le vaste océan des espérances. En se voyant abandonnée, certaines femmes vont arracher leurs amants au bras d'une rivale, la tue et s'enfuient au bout du monde sur l'échafaud ou dans la tombe. Cela sans doute est beau. Le mobile de ce crime est une sublime passion qui impose à la justice humaine. D'autres femmes baissent la tête et souffrent en silence. Elles vont mourant et résignées, pleurant et pardonnant, priant et se souvenant jusqu'au dernier soupir. Ceci est de l'amour. L'amour vrai, l'amour des anges, l'amour fier qui vit de sa douleur et qui en meurt. Ce fut le sentiment d'Eugénie, après avoir lu cette horrible lettre. Contre son habitude, elle ne passa point par le couloir, mais elle retrouva le souvenir de son cousin dans ce vieux salon gris, sur la cheminée duquel était toujours une certaine soucoupe, dont elle se servait tous les matins à son déjeuner, ainsi que du sucrier de vieux Sèvres.